Un voyage rare aujourd'hui sur RMC, dans le monde du foot, en tout cas after Coupe du Monde spéciale Ouzbékistan. Le pays d'Asie centrale va connaître sa première Coupe du Monde cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une Coupe du Monde à suivre sur RMC évidemment.
RMC, after Coupe du Monde, les 48 équipes.
Aurélien Thiersin.
Amis de RMC, bonjour, bienvenue. La Coupe du Monde de foot, c'est très bientôt sur RMC, à vivre en intégralité du 11 juin au 19 juillet. Et un voyage inhabituel aujourd'hui dans le paysage du football, en tout cas. After Coupe du Monde spécial Ouzbékistan, à suivre en podcast sur l'After Foot TV, sur YouTube. On est partout comme d'habitude. Et donc, les loups blancs ouzbeks, premier pays d'Asie centrale à se qualifier pour une Coupe du Monde. Valeur sûre du football asiatique depuis 20 ans désormais. Et pour savoir ce que vaut vraiment cette équipe surprise, on a trouvé des suiveurs du championnat ouzbek. Et oui, ça existe, c'est une espèce rare. Et il y a notamment Kylian Besson. Salut Kylian.
Salut, salut, merci de m'avoir invité. Effectivement,
avec grand
on n'est pas
plaisir.
Très nombreux.
Actif sur ton compte X, Kylian, BSSN, avec nous également. Lazare Von Paris, spécialiste des footballs de l'Est, cofondateur du site Footballski, co-rédacteur également du livre À l'ombre du Big Five. Salut Lazare.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Allez, after Coupe du Monde spécial Ouzbékistan, c'est parti. Bon, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Ouzbékistan, on va découvrir ensemble ce pays qui donc pour la première fois de son histoire va participer à la Coupe du Monde dans le groupe K avec la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo. Donc du très très lourd pour commencer. On parlera des objectifs à la fin de ce podcast. Mais Lazare, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'Ouzbékistan, où est-ce que ça se situe, qu'est-ce que c'est que ce pays ?
L'Ouzbékistan est un pays assez jeune parce qu'il est issu de l'Union soviétique et de son indépendance date de 1991. C'est un pays qui est assez particulier parce qu'il est doublement enclavé, c'est-à-dire qu'il est très loin de toutes les mers. Il faut passer deux pays pour accéder à une mer. Environ 35-38 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est aussi assez très rectangulaire parce que c'était l'ancienne route de la soie. Et donc, dès qu'on va penser à l'Ouzbékistan, on va penser au caravansérail, on va penser aux épices, on va penser au voyage et on va penser justement à toutes ces villes un peu mystiques qu'on a déjà entendues, Samarkand, Boukhara, qui sont des joyaux architecturaux, qui sont des villes très belles, des villes historiques et qui vont d'une certaine façon aussi marquer le pas par rapport à Tachkent, qui est une ville très soviétique. Et donc, c'est un pays qui renferme beaucoup d'histoires avec un triangle d'or historique, comme on a pu le voir, et une ville, Tachkent, qui, elle, est beaucoup plus récente.
Kylian, le foot sur place, parce que c'est ce qui nous intéresse évidemment, ça représente quoi ? Moi, personnellement, je me souvenais de la signature de Rivaldo à Bunyodkor, qui est un des grands clubs ouzbeks. Mais qu'est-ce que représente le football en Ouzbékistan, Kylian ?
Le football en Ouzbékistan, ça devient le sport le plus populaire du pays de manière générale. Je crois qu'il y avait environ 30% des Ouzbeks qui suivent le football au moins assez régulièrement. Au-delà de ça, ça suit la tendance de tous les autres pays en Asie où le football se développe. Et notamment aussi dans le championnat où on voit des affluences qui augmentent de plus en plus. Pas trop sur les clubs de Tachkent. Globalement, Tachkent, c'est pas vraiment la capitale du foot en Ouzbékistan, mais sur des villes comme Samarkand, comme Namangan aussi, qui est une des grandes villes ouzbèques, on voit des grosses affluences et de plus en plus de ferveur autour de la sélection.
Alors, l'histoire en Coupe du Monde de l'Ouzbékistan va être assez rapide, puisque l'Ouzbékistan n'a jamais participé à une Coupe du Monde, mais ça reste une équipe très solide en Asie, qui a frôlé la qualification plusieurs fois en 2006, 2014, 2018. À chaque fois, il manquait quelque chose, mais cette fois, le parcours en qualif a été plutôt très très bon. Deuxième de la deuxième phase derrière l'Iran, mais à égalité de points. Et ensuite, deuxième de la poule de la phase finale. Alors, c'est assez compliqué en Asie. Et encore derrière l'Iran, mais devant les Émirats Arabes Unis, devant le Qatar notamment. Lazare, c'est un pays qui compte de plus en plus et qui pèse de plus en plus lourd dans le foot asiatique.
C'est un pays qui monte depuis des années et des années. On a pu le voir surtout avec les équipes de jeunes ces dernières années, où ils ont multiplié les très bonnes performances dans les coupes d'Asie de jeunes, que ce soit U17, que ce soit U23, ils ont gagné la U23 asiatique en 2018. Ils ont du coup participé aux JO, ce qui leur a permis de prendre de l'expérience. Les U20 ont gagné la Coupe d'Asie en 2020. Les U16 ont gagné, je crois, c'était en 2018. Bref, on voit qu'il y a une montée en puissance régulière année après année. Et cette qualification à la Coupe du Monde n'est que l'aboutissement d'un programme
En fait, c'est pas une surprise de
qui est une
Lazare, en fait, c'est ça que tu
volonté.
nous dis, c'est pas une surprise du tout.
Exactement, c'est tout sauf une surprise. Et on le voit qu'il y a beaucoup de talents et beaucoup de talents qui continuent d'émerger.
Kylian, cette équipe justement se qualifie pour une Coupe du Monde. Le gouvernement en fait a massivement investi dans le football depuis 10-15 ans. Je le disais, c'est vrai qu'en Europe, en France, on ne connaît pas très bien l'Ouzbékistan, mais depuis 2004, c'est très régulièrement une équipe qui est quart de finaliste à minima en Coupe d'Asie en fait.
Oui, c'est une équipe qui, même si elle n'a pas forcément des bons résultats, enfin des très bons résultats, on va dire, dans les grandes compétitions, elle n'a jamais gagné la Coupe d'Asie, par exemple, et elle se qualifie que maintenant pour la Coupe du Monde. C'est une équipe qu'on voit déjà à un haut niveau depuis 2 décennies et qui continue en même temps son ascension légèrement. On en parlait dans les catégories jeunes juste avant. Mais voilà, il y a eu aussi une contre-performance sur la dernière Coupe d'Asie en 2024, qu'il faudra que, je pense, beaucoup de joueurs ont envie d'oublier en faisant une bonne Coupe du Monde et grâce à cette qualification à la Coupe du Monde. Mais oui, c'est absolument pas une surprise de voir l'Ouzbékistan arriver à la Coupe du Monde. C'était inévitable, j'ai envie de dire.
Et je parlais, alors il y a souvent l'Iran qui est un pays qui est voisin de l'Ouzbékistan qui est dans la même zone. En fait, l'Ouzbékistan aujourd'hui, c'est vraiment un pays au niveau de l'Iran parce que les Ouzbéks ont gagné la Coupe d'Asie, la Coupe d'Asie centrale des nations, pardon, en 2025 en battant l'Iran, qui est un adversaire contre lequel ils se cassent les dents assez souvent. Mais il faut vraiment pas sous-estimer Lazare, cette équipe ouzbèque qui est aujourd'hui au même niveau que l'Iran.
Non, exactement. Déjà, premièrement, il y a énormément d'Ouzbéks qui jouent en Iran. Ça, c'est un premier point. Et dans les deux cas, il y a beaucoup d'argent qui sont investis, que ce soit par le gouvernement ou les entreprises parapubliques, pour soutenir le football localement. Et par exemple, le gouvernement ouzbèque dépense 40 millions d'euros tous les ans pour les clubs de première division. Ça, c'est la subvention qui est donnée, ce qui permet forcément de construire des infrastructures et de développer le foot local.
Et on va développer justement cette sélection ouzbèque. Messieurs, on va parler du coach. Et là, c'est un nom qui nous parle. Forcément, Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006 en tant que joueur, joueur immense hein, qui a joué à la Juve et au Real Madrid notamment. Mais un coach à la carrière un peu plus compliquée. Il a 52 ans aujourd'hui. Il est passé par les Émirats, par la Chine également. Alors là, ça s'est plutôt pas mal passé. Champion de Chine avec le Guangzhou Evergrande. Notamment, Kylian, je vais me tourner vers toi d'abord, puisque tu es donc spécialiste du football asiatique. Il est passé par le Dynamo Zagreb. Et là, Lazare, hein, qui est un spécialiste des footballs de l'Est, va compléter tout ça. Mais d'abord, Fabio Cannavaro, pour toi, Kylian, est-ce que c'est un grand coach? Est-ce qu'il a marqué de son empreinte son passage en Chine? Qu'est-ce qu'on retient de Fabio Cannavaro en Asie?
Bah, il a marqué, oui, vu qu'il a gagné le titre en soi, mais le Guangzhou de Evergrande de l'époque était littéralement inarrêtable en Chine. C'est l'équipe ultra dominante de la dernière décennie qui a malheureusement disparu en 2024, cette équipe. Donc, il avait les joueurs pour dominer le championnat. En plus, c'était pas le plus grand Guangzhou qu'on ait vu sur cette décennie-là, honnêtement. Donc, quand je l'ai vu arriver en sélection ouzbèque, j'étais un peu sceptique quand même aussi.
Oui, parce que bah, Lazare, là, je me tourne vers toi. Donc, il est passé, on le voit sur le tableau, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou l'Afterfoot TV. Il est repassé par son pays, donc l'Italie, avec Benevento en Serie B. Il a maintenu l'Udinese en Serie A en 2024. Mais après, il est passé par le Dynamo Zagreb. Et là, normalement, quand tu as le Dynamo entre les mains, tu dois être champion de Croatie. Et ça s'est pas bien passé pour Fabio Cannavaro.
Quand tu fais 6 mois et que tu es viré au mois d'avril avant la fin de saison, c'est qu'en général, ça sent pas bon.
Ah mais tu retiens quoi de son passage en Croatie à Fabio Cannavaro? Vraiment, c'est une catastrophe
Il était en
absolue.
même t il était en... Non, ce qui était marrant, c'est qu'il était en même temps que Gattuso et du coup, il y avait cette hype un petit peu sur 2 entraîneurs italiens qui se répondaient l'un l'autre. Mais même à ce moment-là, Gattuso a de meilleures performances et de meilleurs résultats avec l'Hajduk que lui. Et lui est un peu effacé, on va dire, surtout par rapport à Gattuso à l'époque. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose à retenir de
Bon.
positif.
Bon, alors, donc c'est vrai que c'était une surprise de le voir arriver en Ouzbékistan après ça. Alors, il est sélectionneur kilien depuis peu de temps, depuis le 6 octobre 2025. Et à l'heure d'enregistrer ce podcast, donc on est le 8 mai, pour être transparent, il a disputé 6 matchs à la tête de l'Ouzbékistan. Pour 5 victoires, notamment contre l'Égypte, contre le Gabon, il y a eu des victoires au tir au but, contre l'Iran, le Venezuela, et seulement une défaite 2-1 contre l'Uruguay. Donc à l'arrivée, Kylian, son bilan, il est pour l'instant très bon, hein, Fabio Cannavaro, avec l'Ouzbékistan.
Son bilan, il est très bon parce qu'il n'a pas tout changé en arrivant. Il est resté sur la continuité de ce qui avait été fait en Ouzbékistan, un jeu qui est assez singulier en Asie centrale, qui diffère beaucoup, par exemple, de ce qu'on peut trouver au Tadjikistan, au Kirghizistan. C'est un jeu beaucoup moins explosif, beaucoup plus dans le contrôle. Et il est resté dans ce qui avait été mis en place par Katanets, le coach slovène à l'époque, puis Timur Kapadze, qui avait fait l'intérim en Ouzbékistan. Donc, en essayant de rien révolutionner, il a mis en place ces quelques idées supplémentaires et ça fonctionne assez bien. Et petit point aussi que j'ai envie de rajouter, c'est qu'en mars, il a essayé pas mal de jeunes joueurs, ce qui était un peu le problème de l'Ouzbékistan avec les précédents coachs, c'est-à-dire une tendance à parfois délaisser les jeunes qui pourtant avaient de très bons résultats en club et en sélection jeune.
Bah justement, là, tu as parlé de Sretsko Katanets, le Slovène, et Timur Kapadze, un Ouzbék qui a fait l'intérim. Mais j'ai regardé, ça m'a étonné de voir la date d'arrivée de Fabio Cannavaro, puisque les résultats étaient plutôt bons, très bons avant en Ouzbékistan. Et donc, il y a 3 sélectionneurs qui se sont succédés avec l'arrivée de Fabio Cannavaro dans une équipe déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Kylian, pourquoi autant de changements à la tête de cette sélection?
Parce que Sretsko Katanets ne faisait pas vraiment l'unanimité. C'est davantage avec l'arrivée de Kapadze qu'on a vu en Ouzbékistan qui était beaucoup plus protagoniste. Il y a eu beaucoup de matchs très très limites sous Katanets. Et globalement, ce n'est pas un coach qui fait l'unanimité du tout en Asie. Et Kapadze, il était là pour l'intérim, mais je pense que l'Ouzbékistan, pour sa première Coupe du Monde, cherchait aussi un nom un peu connu pour amener l'équipe avec de l'expérience aussi, ce que n'a pas Kapadze pour le moment, même si on sait que l'Ouzbékistan essaye beaucoup d'investir sur ses jeunes coachs, on le voit dans le championnat, et donc je pense d'ici la prochaine Coupe du Monde, on verra peut-être des coachs locaux.
Mais, voilà, mais t'es inquiet quand même de voir, parce qu'on a évoqué la carrière de Fabio Cannavaro, alors avoir un nom, c'est très bien, globalement ça se passe bien au niveau des résultats pour le moment, mais on parlera des objectifs à la fin du podcast. Mais est-ce que toi, tu le sens prêt à diriger une nation qualifiée à la Coupe du Monde, Fabio Cannavaro?
C'est un peu léger. Moi, c'est un peu léger. Mais bon, c'est... L'avantage, c'est que l'Ouzbékistan, c'est un pays qui fonctionne beaucoup par génération. Et c'est les joueurs qui jouent ensemble, ils jouent ensemble depuis quasiment les U17. Donc, le coach va avoir un impact moins important parce qu'il n'y aura pas de joueurs à ajouter, etc. C'est vraiment un groupe globalement très, très soudé de joueurs qui se connaissent tous, quoi.
Ouais, l'after Coupe du Monde spécial Ouzbékistan sur RMC. On est avec Kylian Besson et Lazar Von Paris, deux spécialistes du football ouzbek. On est toujours sur RMC pour découvrir un pays inhabituel dans le paysage du foot mondial, l'Ouzbékistan, qualifié pour sa première Coupe du Monde. C'est l'after Coupe du Monde. Vous avez un épisode par nation qualifié à cette compétition. On est avec Lazar Von Paris, spécialiste des footballs de l'Est, et Kylian Besson, spécialiste du football asiatique. Et on va parler de la star de l'équipe, messieurs. Et là, aucune surprise, Lazar, c'est Abdoukodir Roussanov, joueur de Manchester City, le plus grand ouzbek de l'histoire, peut-être. Lazar, 25 sélections, pas encore de but, mais passé par Bougnotkor, passé par le championnat biélorusse, puis le Racing Club de Lens qu'il a vendu, bonus compris, 50 millions d'euros à Manchester City. C'est assez dingue d'imaginer qu'un Ouzbék a signé dans un des plus grands clubs du monde, Lazar.
C'est incroyable, ça a mis un coup de projecteur sur toute la région et encore plus sur l'Ouzbékistan, forcément. Ça a permis de mettre en avant ce football qui est un peu différent, mais qui regorge de talent. Et aujourd'hui, il surprend par ses performances, parce qu'il a pu voir du talent à l'époque, mais je pense que peu de gens s'imaginaient avec défenseur central de Manchester City, d'un des plus grands clubs du monde à l'heure actuelle. Et surtout, sa trajectoire est incroyable. Quand il joue, quand il quitte l'Ouzbékistan, il est encore tout jeune. Quand il arrive en Biélorussie, qu'il ne joue pas en division, il arrive directement après à Lens. Donc, c'est vraiment un pari qui est fait, qui ne coûte pas très cher et qui rapporte haut. Et pour revenir un petit peu peu au joueur et à son histoire. Il a une histoire assez singulière parce que quand il grandit à 15 ans, il joue milieu de terrain et il a des problèmes de genou. Une maladie assez connue qui s'appelle Krassoff. Et du coup, pour le permettre de grandir plus facilement, il arrête la sélection nationale avec l'accord de son père et du coach à l'époque pour revenir quelques mois plus tard. Et quand il revient, en fait, il a beaucoup grandi, il s'est épaissi. Et c'est à ce moment-là que le sélectionneur de l'équipe nationale, donc U17, décide de le replacer en défense centrale. Et c'est à partir de là que tout change et qu'il devient le joueur qu'il est, qu'il a le capitanat. Et donc, la trajectoire incroyable qu'il a aujourd'hui.
Et oui, et d'ailleurs, Kylian, c'est aussi un recruteur lensois qui l'a découvert à la télé pendant le mondial U20 en Argentine. La trajectoire est dingue d'Abdoukhodir Khoussanov. Et aujourd'hui, c'est lui le taulier de la sélection. Pour toi, on va parler de Chomourodov, qui était également le capitaine passé par la Roma. Mais Khoussanov, c'est l'idole d'un pays aujourd'hui, j'imagine.
Oui, très, très clairement, Khoussanov, il est sur toutes les lèvres. Après, c'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas si dans le vestiaire, il a encore ce rôle de taulier, parce que Chomourodov, c'est vraiment la star de la dernière décennie en Ouzbékistan. C'est un joueur qui a d'énormes statistiques en sélection, qui, même si certaines saisons en Italie ont été plus ou moins mitigées, cette Coupe du Monde, c'est lui qu'on va attendre peut-être davantage au tournant en Ouzbékistan, du moins parce que, entre guillemets, tout le monde imagine qu'il l'a mérité et qu'il fallait qu'il y soit, et c'est sûrement sa dernière chance, entre guillemets.
Et on va le découvrir, cette valeur sûre. Eldor Chomourodov, avant-centre très costaud, 90 sélections, 44 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Ouzbékistan. Il évolue cette saison à Istanbul Başakşehir, prêté par la Roma, mais donc passé par la capitale italienne. 129 matchs de Serie A en tout. Alors, c'est pas un finisseur hors pair en Italie, mais quand même, c'est vrai qu'avant Khoussanov, Kylian, c'est un joueur qui a prouvé, un joueur ouzbek, qui a prouvé à son pays que c'était possible de réussir dans un très bon club européen.
Effectivement, surtout qu'en plus, c'est un des. Il y a une dizaine d'années, plusieurs avant-centres ouzbeks qui étaient assez prometteurs, et c'est le seul qui a vraiment réussi à performer, donc il était vraiment absolument nécessaire en sélection. Aussi, voilà. Donc voilà.
Oui, et Lazare, justement, ton avis sur Eldor Chomourodov, qui n'est pas aussi connu que Khoussanov, mais comme le disait Kylian, c'est peut-être lui qui fera la différence pour son pays. J'ai regardé avant l'émission notamment un Ouzbékistan-Qatar où il y a un 3-0. Il met une volée du gauche en fin de match assez merveilleuse. C'est vrai que c'est un joueur qu'on connaît très très peu finalement en Europe de l'Ouest, malgré son statut de joueur de la Roma à un moment donné, mais c'est vraiment pas un mauvais joueur.
Ah non, c'est un très bon joueur. Surtout, il fait plein de confiance cette année en Turquie, où il met plus de 20 buts, ce qui lui permet d'arriver quand même dans une grande forme. Il fait 1m90. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même un joueur qui a 30 ans. C'est vraiment pas sûr qu'il soit là dans 4 ans. Et donc, cette Coupe du Monde, c'est sa Coupe du Monde, c'est pour lui. Il est plus âgé que le reste de l'équipe, il a ce rôle un petit peu de papa. Il a été aux Jeux Olympiques il y a 2 ans, il a marqué aux JO, il a encadré cette équipe olympique. Et donc, ça va être le lance de cette attaque avec un de ses coéquipiers, Fayouzouf, qui joue avec Şehir.
On va en parler, Lazare, parce qu'en plus, ça a un petit peu coupé pendant que tu prononçais son nom. Abosbek Fayzulayev, c'est peut-être la pépite à suivre de cette sélection ouzbek. C'est un ailier droit, petit gabarit, passé par la Russian Premier League. 30 sélections, 8 buts, très très important pendant la campagne de qualification. Kylian, malheureusement blessé ces dernières semaines, et du coup, Fabio Cannavaro n'a jamais pu le sélectionner encore. Mais ce serait une déception de ne pas le voir à la Coupe du Monde. D'ailleurs, il fait partie du groupe d'un training camp très bientôt, là, au mois de mai-juin.
Oh oui, totalement, ce serait terrible de ne pas le voir, parce que avant d'être en sélection, il portait déjà les sélections jeunes. C'est lui qui porte l'équipe U20 à l'époque, en 2023, qui remporte la Coupe d'Asie. Il a une grosse importance aussi en U23. C'est la star, c'est la future star offensive de cette équipe ouzbek. Il est très bon techniquement, il a déjà un gros mental, c'est un très, quelqu'un de très combatif. Donc, on a Roussanov en défense, mais il y a Faizullayev aussi qui est l'idole, on va dire, la jeune idole de l'Ouzbékistan devant.
Et donc Istanbul Başakşehir pour l'instant. Kylian, est-ce que tu le vois aller plus haut, ce garçon? Est-ce qu'il peut vraiment exploser aux yeux du monde pendant ce mondial?
Oui, ça a été personnellement une petite déception quand on a vu signer à Başakşehir. Pas que la Turquie soit pas un bon championnat, mais je le voyais vraiment signer dans un des cinq grands championnats. Mais il est parti en Russie. On sait que les joueurs qui évoluent en Russie, des fois, c'est compliqué d'aller les chercher parce que les indemnités de transfert demandées sont assez hautes et les clubs ne laissent pas forcément partir. Mais j'espère qu'il reviendra de ses blessures et qu'on le verra et que la Coupe du Monde lui serve peut-être de tremplin pour aller dans un des 4-5 grands championnats européens, parce que pour moi, il a largement le potentiel pour. J'ai pas de doute sur ça.
Ouais, bah c'est vrai que il est assez impressionnant, des petits appuis, beaucoup de vitesse. Et après, si je ne dis pas de bêtises, l'Ouzbékistan aussi est, enfin l'Ouzbék est une langue cousine du turc, donc il y a peut-être des liens aussi particuliers entre les deux pays qui font que les Ouzbeks peuvent se tourner vers la Turquie. Lazare, sur le reste de l'effectif, est-ce que tu as envie de parler d'un joueur en particulier? Il y a le numéro 10 Macharipov notamment, ou le latéral gauche Nasrolayev qui ont des parcours intéressant. Qui tu vois aussi épauler ce trio magique, on va dire, Roussanov, Faizullayev, Shomurodov?
Le troisième compère de l'attaque, je mettrais quand même Ouronov, qui joue à Persepolis en Asie, en Iran, qui est vraiment l'alter ego de Fayouz sur son côté gauche, et ce qui permet vraiment d'avoir un 3-4-3 très équilibré, avec vraiment un ailier droit, un ailier gauche et une pointe assez forte devant. Et donc Ouronov là-dessus, il a été très bon pendant la campagne de qualification. Il a 0,2 XG en moyenne par match. Donc il apporte vraiment quelque chose. Il a aussi l'expérience des grands championnats. Il a joué au Spartak Moscou à l'époque, quand le championnat de Russie était un peu plus calibré qu'aujourd'hui, on va dire. Et donc, pour moi, ce trio offensif peut vraiment apporter de belles choses, et on peut voir, avec un peu de chance, des buts et une animation offensive intéressante.
Ouais, Kylian, toi, le suiveur du championnat ouzbek, il y en a quand même pas mal qui évoluent au pays. Est-ce qu'on peut être encore plus surpris par un gars dont on n'a jamais entendu parler? Parce que Faizullayev, on le connaît un petit peu, mais pour le reste, c'est vrai que ça reste des inconnus pour nous.
J'ai deux joueurs en tête. J'ai déjà le gardien Abdouvorid Nematov, qui évolue du côté de Nassaf Karchi, qui est le champion de la saison 2024, qui est le gardien que l'Ouzbékistan attend. Il y a un problème à ce poste-là avec Outkir Youssoupov, qui est un gardien qui a honnêtement le maillon faible de cette sélection. Et donc là, il y a ce jeune Nematov qui arrive et qui sera très attendu. Est-ce qu'il sera titulaire? Pour l'instant, Cannavaro n'a pas l'air de s'être décidé, mais en tout cas, à 23 ans, c'est lui l'avenir de la sélection. Et voilà. Et le deuxième dont j'ai envie de parler, c'est Jarongir Ourozov, qui évolue du côté du Dynamo Samarkand, qui est un défenseur central très athlétique, un peu à la Roussanov, mais un peu moins, qui fait un peu moins de montée balle au pied, un peu moins bon techniquement, mais qui est aussi très très attendu en Ouzbékistan, parce qu'il a des qualités physiques et surtout une grosse qualité de vitesse, notamment pour couvrir la profondeur, c'est très bien. Et est-ce qu'on le verra déjà à la Coupe du Monde? On n'est pas sûr. Je pense que si, quand même, Cannavaro a l'air de l'apprécier. Est-ce qu'il sera titulaire? Pas sûr non plus, parce qu'il y a toujours Eshmourodov, notamment, qui est un peu inenlevable de son, mais ce sera clairement un joueur à suivre à la vie.
Mais messieurs, avec tout ce que vous me dites, finalement, on a la sensation que cette équipe d'Ouzbékistan est quand même solide et peut espérer des choses dans une Coupe du Monde à 48 où les 8 meilleurs 3e passent en 16e de finale. Mais le programme, il va être plus que costaud. Le 17 juin, Ouzbékistan-Colombie à Mexico. Le 23 juin, Portugal-Ouzbékistan à Houston. Et le 27 juin, RD Congo-Ouzbékistan à Atlanta. Lazare, est-ce que tu mettrais un centime sur une qualif de l'Ouzbékistan au prochain tour avec un tel groupe?
Un centime
Oui, quand même, allez, 100 euros.
On peut le faire. Le problème, c'est que le groupe est très relevé, très clairement. Ça va pas être facile là-dessus. Et donc, il y a ce match face au Congo qui, à la fin, va sûrement permettre de laisser entrevoir des espoirs, on va dire. Mais le premier match face à la Colombie, ça va être assez relevé. Le Portugal, c'est quand même un des top équipe qui prétend à la victoire finale, et donc le Congo laisse imaginer ou espérer des 3 points là-bas.
Le mot de la fin pour toi, Kylian, sur les objectifs de l'Ouzbékistan, je disais qu'avec Cannavaro, il y a eu des victoires contre l'Égypte, contre l'Iran, le Venezuela au tir au but, une petite défaite contre l'Uruguay. Ça veut dire que les Ouzbeks ont leur chance dans une poule qui paraît quand même sur le papier très compliquée pour un novice en Coupe du Monde?
Moi, j'ai envie d'y croire, forcément, parce que c'est une sélection que je suis beaucoup, une de mes préférées. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué. Je pense que là, l'objectif, ça va déjà être surtout de découvrir la Coupe du Monde, de se préparer. Il y a beaucoup de joueurs qu'on reverra en 2030. Je pense que l'Ouzbékistan se qualifiera sans problème. Et au-delà de ça, voilà, essayer de battre la RDC, c'est peut-être sûrement l'objectif principal. La Colombie, essayer d'avoir un résultat, même si bon, voilà, ce sera compliqué. Mais j'ai quand même envie d'y croire, moi, personnellement.
Eh ben merci beaucoup messieurs, on l'espère pour les Ouzbeks, donc un petit nouveau en Coupe du Monde. Vous l'avez découvert grâce à nous, grâce à Lazare, grâce à Kylian. Merci beaucoup messieurs, et vous avez un épisode par nation qualifié à cette Coupe du Monde. On sera au plus près de l'équipe de France, au plus près de toutes les histoires qui vont se dérouler au Mexique, au Canada et aux États-Unis du 11 juin au 19 juillet. Ciao les amis sur RMC.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.